Et maintenant, c'est l'heure des RLP Sport avec Thomas. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle année. Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux à tous les sportifs et bénévoles, dirigeants et suiveurs du sport en Dordogne. Plein de bonnes choses. On essaye de ne pas répéter les bêtises de l'année dernière, hein, certains sur et en dehors du terrain. Et on commence l'année. On va parler basket avec un des représentants du comité de basket Dordogne. Rémi Rogez, c'est ça ?
Yes.
Ouais, yes, l'américaine, c'est parti. Bonsoir Rémi, merci d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le comité de basket de la Dordogne ?
Ouais, avec plaisir. Bah, tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est toujours sympa de passer à la radio, surtout pour promouvoir le basket. Donc le comité de basket, qu'est-ce que c'est ? C'est un comité départemental, un peu sur le même principe que tous les sports. On a les clubs qui sont ensuite gérés un peu de manière pyramidale sur des comités départementaux, puis des ligues régionales, et enfin la fédération, c'est la FFBB. Donc nous, comité départemental de la Dordogne, on représente du coup les 24 clubs de la Dordogne. Ça fait un peu plus de 3000 licenciés, féminins et masculins, des tout petits jusqu'aux plus vieux. Et notre rôle, c'est de promouvoir la pratique du basket sur le territoire, de mettre en place les politiques fédérales de nos amis là-haut sur notre territoire de la Dordogne.
Les amis, ouais, à Paris,
ouais. Juste ouais, exactement,
voilà.
Comme partout.
Tous, ouais.
C'est ça. Et donc, avec les spécificités de notre territoire, avec des missions bien précises, de la détection, de la formation d'entraîneurs, d'arbitres, de joueurs, de l'événementiel, de la communication, tout ce qu'on peut retrouver dans les sports amateurs, ouais. Et partout en France et puis aussi en Dordogne.
En Dordogne, ouais. Sous la présidence de
Michel Rigolet.
De Michel Rigolet, voilà.
Ouais, c'est ça, qui a remplacé en 2020 Michel Prédignac, qui est quand même quelqu'un de très connu.
Très connu.
Dans le milieu associatif en Dordogne. Donc depuis 2020, ouais, c'est ça, Michel Rigolet est entouré de, du coup, 15 élus sous différentes commissions qui ont des mandats, comme partout, de 4 ans. Et donc ça va se terminer d'ailleurs en 2024. Donc il y aura de nouvelles élections en 2024.
Il y aura de nouvelles élections. Donc on a parlé de 24 clubs, j'avais noté 23. C'est,
ouais.
C'est quoi le dernier ?
Alors on a eu, il n'y a pas très longtemps, un nouveau club qui s'est affilié à notre territoire, qui est le club de Saint-Aigulin.
Ah
si
oui,
je dis bien. Donc,
oui.
Qui est un peu à la bordure frontière de 3 départements, je crois.
Exactement. Ouais. Charente-Maritime. C'est en Charente-Maritime,
ouais.
Mais c'est à la bordure de la Dordogne et de la Gironde.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et d'ailleurs, il y a un club de foot aussi, La Roche-Chalais, qui joue ses matchs à Saint-Aigulin parce
c'est
que
ça.
C'est plus pratique. D'accord. Donc,
donc depuis tout récent, là, en fait, ils se sont affiliés à notre comité. Donc, pour quelles raisons, je ne saurais pas forcément te dire.
Je pense que c'est pour des déplacements, je pense.
Ouais, à mon avis, ça doit être ça, même si, bon, forcément, ça va quand ils vont devoir aller à Villefranche du Périgord ou à Sarre, là, c'est pas cool non plus. Mais donc, depuis très peu, là, depuis 2 mois, on a 24 clubs, donc 24 comme le département.
Ouais, pour s'en rappeler, c'est bien.
Exactement.
Ouais, bah, t'es jeune, t'as la mémoire quand même. Donc, on a dit un peu plus de 3000 licenciés.
Ouais.
Ça représente à peu près 90 équipes, c'est ça, au total, sur le département ?
Ouais, 90, même, je pense, un petit peu plus en comptant les tout petits, parce que du coup, nous, les tournois commencent à partir de la catégorie U7, donc moins de 7 ans. Jusqu'au senior, bien sûr. Et donc, ouais, si on doit dire un chiffre rond, une centaine d'équipes sur tout le département, avec un petit peu plus de garçons que de filles, malheureusement.
Voilà, j'allais junior, ouais.
Ouais, un petit peu plus de garçons que de filles, et notamment dans les catégories à partir de 13 ans. Chez les garçons, en U13 et en U15, on a beaucoup, beaucoup d'équipes. Avec forcément un peu plus de pénurie au niveau des filles, et notamment sur les catégories U18, plus on se rapproche des seniors, moins on a d'équipes. Notre championnat départemental féminin l'année dernière, il était à 5 équipes. Donc, pour te dire la pauvreté un petit peu du secteur féminin. Et on a un petit peu, en début de saison, on a eu la surprise d'avoir 10 équipes. Donc du coup, pourquoi ? Ben, on ne sait pas forcément trop, mais ça augmente des fois.
Je vais vous en recruter une qui m'a contacté, que j'avais croisée et qui cherche à jouer au basket. Donc, je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. Voilà,
carrément.
Parce qu'elle cherche un club. Et on avait eu Valentin Coiral qui était venu là, du SAS.
Yes.
Du ça Chasse Basket, et qui eux avaient dû arrêter du coup leur équipe féminine, malheureusement.
Totalement.
Donc, mais alors par contre, tu parlais de la catégorie U13, U15.
Ouais.
C'est là où dans d'autres sports, il y a un trou.
Ouais.
Donc ça, bon, je suis surpris en fait d'entendre que il y a ils sont tous partis au basket en fait.
Mais peut-être après moi je te dis la catégorie U13 notamment c'est la catégorie où nous on a des pas des intérêts mais en tout cas des obligations fédérales au niveau de la détection notamment de la formation du joueur.
Ouais.
Donc moi je suis conseiller territorial donc anciennement ça s'appelait CTF conseiller technique fédéral et donc je m'occupe principalement de la détection pour les sélections départementales que je gère. En U13, donc U12, U13, donc c'est une catégorie que je connais très très bien et que du coup on amène ensuite derrière sur la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine et les pôles espoirs. Donc nous on dépend du pôle espoir de Limoges. Donc forcément cette catégorie on a les yeux dessus et c'est vrai qu'en U13, U15 garçons on a vraiment beaucoup d'équipes.
Avec leurs super installations.
Ouais.
Hein, voilà, exactement. Voilà. Ça fait deux fois qu'on en parle dans l'émission.
Ah ouais.
Ouais, il y avait un reportage qui avait été fait où c'était un peu catastrophique au niveau de l'athlétisme. Au niveau de plein de choses là.
Ouais.
Voilà, c'est quand même dommage. Voilà. Bon, bref, la parenthèse est passée, hein, nos amis Limougeaux. Au niveau du développement du basket,
ouais.
Bien sûr, on est obligé d'en parler. Le Boulazac Basket d'Ordogne,
ouais.
Qui retrouve les parquets vendredi soir.
C'est ça.
C'est ça. Est-ce que ça attire les enfants pour venir jouer au basket en Dordogne?
Ouais, bien évidemment. Et nous, on n'est absolument pas en concurrence avec le BBD. On s'en sert plus justement comme un outil, et tu l'as dit, de bah, un petit peu de mise en lumière du basket. On a une convention de partenariat avec le club pro du BBD, avec notre comité, pour essayer de travailler ensemble sur notamment... Bah, ils ont des infrastructures qui sont quand même très, très cool. Et quand nous, on a des réunions ou des choses comme ça, on peut utiliser leurs locaux, pardon. Maintenant, après, derrière, c'est vraiment tout à fait autre chose. Le monde professionnel et même le centre de formation de Boulazac, on est quand même un département qui n'est pas, on ne va pas dire fort, mais en tout cas, qui est pas, on n'a que 3000 licences. Donc, c'est bien à notre niveau, mais ce n'est pas non plus la folie. Le but de Boulazac, en tout cas du centre de formation, c'était de sortir le plus de gamins possible de Dordogne. Mais forcément, on ne peut pas faire du 100%. Donc, en fait, ils vont chercher ailleurs, c'est normal. Et donc, on s'en sert plutôt comme tremplin. Et surtout, on essaye de récompenser nos clubs de Dordogne en parfois leur proposant des places pour aller voir un match.
Ouais, on les voit souvent dans la tribune McDo, là.
Ouais,
voilà,
c'est ça.
On les voit. Ils sont souvent là. Est-ce qu'il ne manque pas, pour attirer un peu plus de monde, une figure de proue, une star qui sortent un petit peu là, de la Dordogne, parce que très sincèrement, j'ai eu beau chercher en préparant l'émission.
Ouais.
Ben, au rugby, on a toute la famille Nessen, là, Carla, Enzo Hervé, Anderson. Au foot, on a Maxence Lacroix,
ouais.
Qui bientôt va rentrer en équipe de France, j'en doute pas. Et en Dordogne, eh ben, on ne sort pas, on n'a pas de pro là. Enfin, on a quelques joueurs qui jouent en pro, mais
ouais.
Est-ce que ça ne serait pas vraiment un gros accélérateur?
Si, forcément. Après, on a des exemples qui sont peut-être moins connus parce qu'ils sont pas en équipe de France et pas au plus haut niveau. Mais c'est vrai qu'un Stéphane Gauthier, bien sûr. Qui joue en Pro B et qui cartonne à Angers. En filles, on a récemment Louise Bussière.
Oui.
Qui a signé à Basketland, donc en première division féminine.
Qui joue la Coupe d'Europe.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours aussi intéressant pour nous. Quand elle revient, on essaye de la contacter aussi pour être un petit peu parrain ou marraine de l'événement, d'événements de petits. Mais après, c'est vrai qu'une grosse figure départementale, on n'a pas forcément. Après, ça n'empêche pas. Je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose dont on a besoin pour avoir une explosion de licence, même si c'est sûr que ça aiderait. On s'en sort bien comme ça et malheureusement c'est aussi du fait de notre département, hein. Il y a moins de masse donc moins de pratiquants et donc dans la masse de pratiquants c'est plus compliqué de trouver du talent.
Bien sûr.
Ouais, bah, c'est ça.
Ouais, ouais.
Hein.
Bah, Victor Wembanyama il est pas né à la maternité de Sarlat quoi.
Et non, malheureusement.
Et ouais, c'est dommage. Justement, donc dans l'émission du comité,
ouais.
J'ai vu aussi marqué soutien matériel et dans l'organisation pour les clubs.
Ouais, c'est ça. Bah, alors, soutien matériel, nous, tu vois, on a notamment des... Bon, pour faire simple, hein, très simplement pour illustrer, on a des paniers à disposition parce qu'on a des gros événementiels où on a besoin de beaucoup de paniers. Donc, on a acheté des paniers. Et par exemple, si un club a besoin d'un panier, bah, moi, je prends ma camionnette et puis, broum, 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 je monte au club et je lui laisse les paniers. On a aussi on fait beaucoup d'événements donc du coup à chaque événement on essaie de donner des cadeaux aux gamins, c'est beaucoup pour les jeunes hein, nos événements, il y en a très peu pour les seniors. On essaie de voilà de donner bah, par exemple on vient de passer Noël là, on a eu les ateliers du Père Noël et on offre des ballons aux tout petits pour essayer de les garder
Père Noël, ouais.
Exactement pour ouais. Essayer de les garder à la pratique du basket et pas qu'ils s'en aillent sur des ballons ovales là dehors où ça gèle hein, vaut mieux être dans un gymnase où il fait chaud.
On a... Et attention ouais. Et attention on commence pas là-dessus. Hein.
Non mais voilà, soutien matériel et puis après au niveau organisationnel on essaye d'apporter donc nous la partie salariée, on essaye d'apporter un petit peu nos connaissances et nos compétences au club dans l'organisation d'événements, dans forcément l'organisation des rencontres, des championnats, c'est nous qui gérons tout. Donc voilà, c'est du soutien. Je pense qu'on pourrait faire plus et j'adorerais qu'on fasse plus, mais malheureusement on est aussi limité parce qu'on n'est pas non plus des tonnes. On est trois salariés, pardon, enfin 2,5 parce qu'il y a une secrétaire qui est à mi-temps, à 80% même plus précisément. Et après des élus qui sont aussi dirigeants de club, donc forcément bah, c'est toujours compliqué d'essayer de se couper en 18 et d'être là pour tout le monde, mais en tout cas on fait le maximum et on essaye de donner tout pour développer le basket en Dordogne.
Ouais. Est-ce que le maillage, parce qu'on est un grand département quand même, hein, géographiquement, est-ce que le maillage est quand même est bon ou alors il y a quand même des zones un petit peu noires?
Il y a des zones noires, notamment le nord du département.
Ouais, Périgord-Vert,
on sait que vers Ribérac il n'y a pas de club, le club le plus proche c'est le club de Tocane. C'est le plus au nord du département, après au-dessus il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est cette partie-là qu'on... Bah, à chaque début de mandat, c'est, l'objectif c'est d'essayer de développer un club dans ces zones-là, mais c'est compliqué parce qu'on a déjà tellement de boulot à côté que s'ouvrir, se dégager des heures pour pouvoir faire ça, c'est toujours compliqué. Mais après, sur le reste, c'est assez bien représenté. Même si un peu le sud-est du département, mis à part Sarlat et Villefranche, c'est un peu vide aussi. Donc forcément, il y avait Saint-Cyprien avant, qui n'existe plus, c'est vrai. Mmh. Je pense qu'on a des places fortes. On a la vallée de Lille où il y a des clubs assez structurés et où il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Je pense à Saint-Front forcément, mais je pense aussi à Issac, à Moulin-Neuf, à Neuvic, où il y a des clubs qui bougent bien. Ensuite, le sud du département, le Bergeracois aussi, on est bien représenté. Et après, c'est vrai que la partie nord et notamment nord-ouest, mais aussi nord-est, où on a La Noaille qui est un petit club qui n'a pas beaucoup de licenciés, mais qui s'en sort plutôt bien. On a Ezra qui est un club qui tourne très très bien. Et puis après, on fait vite le tour, mine de rien, des 24. Ouais.
Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on on entend parler de tout petit village.
Ouais.
Ça, c'est quand même une spécificité du basket en Dordogne, ça.
Ouais, c'est pas faux.
Ben ouais, Issac, Ezrac, Tourtoirac, Villefranche-du-Périgord, Saint-Front-de-Pradoux, que tu connais bien. Bon, c'est Mussidan, hein, voilà.
Ouais.
Comment ça se fait, ça, qu'on n'ait pas de chef-lieu de canton qui s'intéresse un peu plus au basket?
On a Bergerac qui fait partie, je pense, du top 3 des clubs au niveau des licenciés. Périgueux, on a Boulazac, mais c'est pas Périgueux. On a toutes les alentours de Périgueux avec aussi Chamier à la SPTT qui tourne beaucoup avec beaucoup de licenciés.
La OL
à Périgueux, le PBC, le Périgueux BC à Périgueux. Mais c'est vrai que on n'a pas un énorme. Notamment, je pense que ce qui nous manque aussi, c'est un gros club féminin. Donc le Périgueux BC en est un et est en train de un petit peu redorer son blason avec de nouveau des chiffres qui remontent au niveau des licenciés. Et puis avec aussi le gymnase Clochassin qui est enfin terminé et qui donc permet aussi d'avoir un outil qui est exceptionnel pour la pratique. Donc ça aide aussi fortement.
Et là, on parle structure.
Ouais.
Y a quand même un déficit. On en parlait pour le handball, on en parlait pour les sports de salle,
ouais.
En rigolant, hein, parce que je ne pense pas du tout les sports de préau. Voilà.
Ouais, c'est vrai, ça s'appelle comme ça.
Ouais, c'est ça. Non, mais il y a quand même un déficit de salle. On voit beaucoup d'équipes jouer dans les collèges,
ouais.
Dans les lycées. Est-ce qu'il manque pas quand même? Il y a des endroits où on a plein de, on a construit des gymnases et il y a pas de basket quoi.
Ouais, totalement. Bon, je pense qu'on pense un peu à la même chose. Hein, les gymnases d'Agonac et compagnie, c'est
Saint-Pierre-Chignac.
Ouais, Saint-Pierre-de-Chignac. Donc il y a des clubs aux alentours qui ont réussi à toper des créneaux, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. En plus avec le Covid, un petit peu, on a pu bouger un petit peu de ce problème parce qu'il y avait moins d'entraînements et moins de licenciés, donc moins de demandes de créneaux. Mais là, on commence à vraiment remonter bien dans les licenciés et forcément, bah moi aussi, on m'appelle. Est-ce que t'as pas des créneaux? Est-ce que tu n'as pas des contacts à la salle de Saint-Georges à Périgueux? J'ai entendu qu'elle était peut-être dispo. Et c'est toujours compliqué parce que bah, ce problème-là qu'on a au basket, tu l'as dit, on l'a au hand, on l'a au volley, on l'a partout.
Non, mais le badminton,
et le badminton est en train de nous récupérer des créneaux.
Oui. Hein,
donc forcément, c'est sûr qu'il manque des gymnases. Il y a des possibilités. Je sais que le club de Laouel a longtemps joué avec son équipe de prénat l'année dernière à Saint-Pierre-de-Chignac avec une dérogation.
Oui.
Mais c'est vrai que on est en manque un peu quand même.
Petite précision, là, il joue aussi au Moriou.
Ben c'est surtout pour ça qu'il joue à Saint-Pierre-de-Chignac.
Alors on va dire dans le hangar.
Ouais.
Dans le hangar des Moriou à Trélissac, je le connais très bien.
Ouais.
Voilà,
c'est pas fou. Hein.
Sur du béton, c'est pas fou.
Et puis d'ailleurs, ça a surtout pas été homologué quand il jouait en pré-national, donc du coup c'est bien pour une raison.
Est-ce qu'on a au niveau voilà,
ouais.
Pour le coup, on a le BBD bien sûr. En dessous, est-ce qu'on a des équipes en national?
On n'a plus d'équipes en national.
Voilà.
Avant, il y avait donc l'ES Garden à l'époque qui jouait en National.
Exactement,
2,
ouais.
Qui avait fait une folle montée un peu de tous les échelons.
Une folle montée qui tournait.
Ouais,
fort.
Qui tournait très bien. Malheureusement.
Un petit coucou à Antoine Agneau.
Tiens, ouais, voilà. Exactement. Qui joue à Villeneuve maintenant.
Qui joue à Villeneuve.
En N3 dans le 47.
C'est ça.
Ouais, donc l'ES Garden a eu des gros problèmes financiers, on rentrera pas dans les détails,
non.
Mais en gros a disparu et a été remplacé par un plus petit club avec des ambitions un peu plus mesurées, on va dire, je pense. Et donc on a plus de club en national. On a forcément Boulazac, le centre de formation en U18 qui est en espoir, qui joue en championnat national. Et l'équipe la plus au plus haut niveau, c'est bah, Boulazac aussi, mais l'Asso, qui joue maintenant en pré-national, qui a remplacé un peu l'AOL sur la place la plus haute au niveau niveau, qui joue donc en pré-nat cette année. Et ensuite, c'est de la R2, le plus haut niveau partout. En filles, il y a le PBC, il y a Bergerac qui joue en R2, donc régional 2.
C'est
le
sacré derby, ça.
Ouais, alors malheureusement, Bergerac a perdu un peu de sa superbe
ouais.
Depuis, et donc c'est un peu compliqué, ils sont derniers, c'est un peu
ouais.
Dur. Mais le PBC, comme j'ai dit tout à l'heure, est en train de remonter, et là, ils sont premières de R2, invaincus, je crois, de
je
mémoire.
Crois aussi.
Et donc, avec pour projet, je pense, de remonter un petit peu comme avant, en prénat N3, avec quand même une équipe phare du département en filles.
Ouais, c'est important, ça,
ouais.
De toujours avoir des équipes phares, hein, où aller voir les matchs et s'identifier pour les enfants, c'est très important.
Ouais.
Tu disais que vous organisez, au comité, vous organisez les compétitions,
ouais.
Vous organisez également des événements.
Ouais.
Pour promouvoir le basket.
Exactement, ouais.
Ouais. J'ai noté, il y a un truc qui m'intéresse,
ouais.
Au mois de février, là, le Challenge Benjamin,
ouais,
c'est ça?
Exactement. Alors, le Challenge Benjamin, c'est un challenge fédéral.
Ah ouais, il faut parler américain, pardon.
Eh ouais, c'est le basket, hein,
c'est
la NBA. Hein.
Of course.
Non, mais Challenge Benjamin, du coup, c'est un truc fédéral, donc on est obligé de le faire. Mais bon, ça se passe bien, donc nous, on est contents de le faire. C'est des épreuves qui sont bah, du coup pour la catégorie U13, comme on disait tout à l'heure. Donc nous, on a vraiment les yeux rivés dessus. Et c'est quatre épreuves où les gamins passent ces épreuves-là au sein de leur club, sont qualifiés pour une phase départementale que nous, on gère. Donc la finale qui se passera le 18 février, de
oui,
mémoire.
À Saint-Front,
à Saint-Front, exactement.
Ouais, ouais.
C'est pas moi qui ai choisi.
Non.
et donc ensuite, nous, on qualifie les gamins pour la phase régionale. Et enfin, il y a la finale nationale qui se déroule à Paris. Donc anciennement, c'était à Bercy pendant les finales de Coupe de France. Maintenant, ça se passe à Paris pendant les finales de Coupe de France, mais plus au...
Au Palais Omnisports, ouais.
Ouais. Ouais. Et en fait...
Pardon, à l'accord au Hôtel
à l'accord
Arena.
Hôtel Arena, ouais,
voilà,
c'est ça.
Pardon.
Et donc maintenant, les gagnants de cette finale-là, filles et garçons de toute la France, gagnent un voyage en NBA, puisqu'il y a un partenariat entre la Fédé et la NBA. Donc c'est hyper top, parce qu'en plus, c'est pas... peut-être pas tout le monde peut y arriver, mais en tout cas, la chance est donnée à tout le monde, puisque c'est une épreuve individuelle. On peut s'entraîner chez soi, et celui qui charbonne, il peut réussir. Donc c'est toujours bien. Là, du coup, la phase club s'est terminée le 31 décembre, et puis du coup, on va pouvoir donner les qualifiés pour la phase départementale. Donc on fait 20 filles, 20 garçons. Donc c'est 2011 et 2012 qui sont nées les générations.
Années, ouais.
Et ensuite, on qualifie 4 garçons, 4 filles pour la finale régionale qui est gérée par la Ligue. Et puis ensuite, la finale
nationale. Et puis
après, ça
monte et puis on peut...
Ouais. Exactement. Et les gagnants remportent un voyage aux États-Unis.
Ouais. Bon. Le peu de médiatisation, je sais que ce soir, on m'a informé là... tout récemment, qui est Monaco qui joue en Euroleague ce soir.
Ouais.
Le peu de médiatisation du basket, est-ce que ça, c'est un problème ?
Ouais, bon, c'est un problème depuis longtemps. Hein. Depuis que, à l'époque, Sport Plus n'existe plus, que Canal ne diffusait plus les matchs. Donc maintenant, il y a une plateforme qui s'appelle Squeak qui met un petit peu en lumière. Bon, forcément, c'est payant. Hein. On va pas pouvoir avoir des choses gratuites. Mais il y a quand même l'équipe qui met quelques matchs, notamment d'Euroleague. Donc c'est quand même super sympa.
Et de championnat aussi.
Et de championnat, ouais, exactement.
De Jeep Elite, ouais.
Donc c'est sympa de voir quelques matchs, mais forcément la médiatisation du basket, on le voit aussi pour les JO. Il y avait une phrase quand Evan Fournier, la France avait joué, il y avait l'équitation ils avaient coupé le match et avaient mis l'équitation, oui. Donc ça avait fait grincer des dents un peu partout. Mais oui, c'est un problème de médiatisation.
Evan Fournier, il n'a pas dit que ça. Hein. Il avait dit aussi que la France n'était pas un pays de sport.
Hein. Ouais.
Il a dit beaucoup de choses au ministre de l'Éducation nationale. Total soutien à Evan Fournier là-dessus.
Voilà. Oui. Non, mais forcément, c'est les gens qui sont fans de ce sport sont un peu indignés parfois parce que ça mériterait de mettre plus de lumière. Maintenant, après, pour les fans incontestés de basket, il y a des choses qui ont été mises en place qui sont bien. La Ligue nationale de basket, du coup, qui gère la Pro A et la Pro B.
La LNBTV,
voilà, mis une plateforme. Alors, des fois, elle fonctionne, des fois, elle ne fonctionne pas. Mais en tout cas, il y a quand même accès gratuit à tous les matchs de Pro A et de Pro B.
Exactement.
Donc, ça reste quand même très bien. Et après, par contre, oui, forcément, on rêverait tout le temps d'avoir une chaîne qui pourrait mettre du basket plus souvent et qui s'intéresserait. Donc, je sais que France 3 le fait aussi, France 3 Région, quand il y a des matchs. Chapeau quand il y a des matchs importants.
Quand il y a des derbies,
des derbies, voilà. Exactement. Donc ça, c'est toujours aussi cool. C'est un début. Je pense qu'on peut faire bien plus. Maintenant, après, ça passe aussi par des résultats des équipes de France pour essayer de les mettre en avant. Bon, ils ont fait le taf quand même récemment.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus non plus, à part sur TMC, tu vois. Ils sont pas passés sur TF1 comme le Hand, ou même le Hand, maintenant ça devient compliqué. Enfin bon, bref.
La finale du Hand du championnat du monde était sur TMC.
TMC,
hein.
Ouais, défi, ouais, exactement.
On a préféré montrer le journal de 13h. Ouais, de 20h, pardon.
C'est ça. Voilà. Donc, alors, je pense qu'on rejoint aussi beaucoup, comme tu l'as dit, Evan Fournier. Hein, la France, c'est pas forcément un grand pays de sport, même si on veut nous dire le contraire.
Non.
Donc, il faut batailler, nous, à notre niveau, tu vois, pour essayer de montrer qu'on fait des choses, qu'on essaye de faire avancer. Tout ça pour mériter de la lumière, parce qu'on en mérite en tout cas.
Ah oui, c'est sûr. un petit rappel, finale des Jeux Olympiques, équipe de France masculine. Les filles, c'était pas loin.
Ouais.
On a eu, on passe pas loin quand même, enfin, dans les sports co.
Ouais.
Au dernier JO, ça met un peu de pression là pour les Jeux Olympiques qui arrivent.
Ouais, je pense qu'il y a de la pression. Hein. Bon, pas que pour le sport collectif, à mon avis. Il y a une pression pour le sport en général en France.
Mais tant mieux.
J'ai bien peur que ça montre encore plus nos faiblesses, à mon avis.
Limite,
parce qu'on l'avait vu, bon, on va pas faire un cours de sociaux du sport, mais quand il y a eu Londres 2012, les Anglais s'étaient bien préparés, les sportifs de Grande-Bretagne s'étaient bien préparés et ont eu beaucoup de médailles. J'ai bien peur que nous, on ne soit pas à ce niveau-là, enfin, j'en suis quasiment convaincu. Maintenant, on a de la chance aussi en France d'avoir quand même des bons sports collectifs parce que, mine de rien, le volley ça tourne, le hand ça tourne toujours, le basket ça tourne, le foot, on verra, mais je pense qu'il y aura aussi des joueurs qui vont peut-être jouer.
Oui.
Hein. Le rugby, à mon avis aussi, je pense que Toto il va jouer. Donc, ça va mettre en lumière aussi ça, donc ouais, ça met la pression. Après, on sait que la Fédé aussi joue beaucoup sur ça. Il y a le 3-3 maintenant.
Exactement,
aussi.
Exactement, je voulais venir.
Ouais, je me doute bien.
Ça, c'est une chance de médaille, ça.
Je pense que ça va être dur.
Ouais.
Ça va être dur pour les filles. Je pense que oui, c'est une vraie chance de médaille. Pour les garçons, forcément, c'est un sport qui a pris de l'ampleur, où beaucoup de monde s'est mis aussi. Nous, on a une équipe de France qui est supportée par la Fédé aussi, qui s'appelle 3-3 Paris. Et qui fait sa première année sur le tour mondial, donc c'est jamais facile. Il y a des équipes qui sont là depuis 10 ans, mais ouais, c'est un nouveau truc, c'est bien. Nous, on nous demande à la Fédé de beaucoup essayer de passer à ça aussi parce que moins d'effectifs, moins besoin de gens pour gérer. Mais on a du mal, on n'est pas le seul département à avoir du mal à mettre en place ça, parce qu'il y a toujours, tu vois, l'hégémonie du 5-5 qui est ancrée dans la tête des gens. Et ouais, malheureusement, c'est dur de faire à la fois 5-5 et à la fois 3-3. Ouais. Et si on coupe le 5-5 pour faire du 3-3, bah, pour l'instant, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas tout ça. Donc forcément, c'est un peu, ça tourne un peu en rond. Mais on essaye de le faire. Ouais. Tu vois, nous, on essaye de le faire sur la fin de saison, quand le championnat 5-5 est fini. Tu vois, sur mai-juin, pour essayer de combler les trous, quoi, quand même. Ça marche, ça prend de l'ampleur, mais ça va doucement, en tout cas chez nous.
Également, au comité, formation, tu l'as dit, hein, de joueurs, bien sûr, d'entraîneurs, arbitres et de dirigeants. Ouais. Ça, c'est quand même important. Et je pense, je vais mettre un accent sur les arbitres.
Ouais. Bah, je pense qu'on a le même problème dans tous les sports et malheureusement, je ne vais pas donner de très bons signes. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on est en manque criant d'arbitres, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les moins jeunes, pour diverses raisons. Je pense que tous les sports ont quasiment les mêmes raisons. Hein. Autour des du coup, nous, c'est des gymnases, mais dans les tribunes, c'est souvent très compliqué. Ça donne souvent peur aux jeunes de s'investir aussi dans l'arbitrage. Donc on essaye de mettre en place des actions, je pense pas assez honnêtement, je pense qu'on pourra en faire plus, mais voilà, c'est un gros problème qu'il va falloir résoudre, parce que plus ça va avancer, plus nos vieux arbitres n'arbitreront plus, et qu'il faut, il faut la relève, et elle tarde à venir. Il y a toujours quand même des jeunes qui s'y intéressent, mais c'est vrai qu'il en faudrait plus. Pour illustrer un peu, sur un samedi soir de championnat départemental, on a des fois des matchs qui ne sont pas couverts parce que pas assez d'arbitres. Donc du coup, on tape sur les clubs pour avoir des arbitres bénévoles. Et donc, du coup, c'est un peu un cercle vicieux, parce que du coup, les gens sont moins formés, donc appartiennent à un club en plus. Donc du coup, ça crée encore plus d'animosité parfois, donc ça aide pas. Et donc, on se retrouve avec des problèmes. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu partout.
Ça en a partout, ça, je te confirme.
Donc j'espère que, tu vois, il y aura quand même quelque chose qui va se faire. Maintenant, c'est aussi fédéral. Hein. Il faut que la Fédé envoie un grand message aussi là-dessus. Donc ils essayent, je pense qu'on peut encore en faire plus. Maintenant, problème des arbitres, problème des entraîneurs, ça commence à être assez intéressant, parce que du coup, nous, comme tu l'as dit, on fait de la formation d'entraîneurs. On est sur le même principe un peu maintenant que le rugby et le foot. Ça s'appelle les brevets fédéraux maintenant.
Oui, exactement.
Avant, ça ne s'appelait pas comme ça, et maintenant, ça s'appelle comme ça. Et donc, c'est moi qui suis en charge des deux BF qu'on fait, parce que du coup, pareil, on fait des petites... on réduit BF, c'est brevet fédéral.
Oui, oui.
Et du coup, on a à chaque fois, c'est plein, les formations. Donc, on sent qu'il y a un attrait quand même là-dessus. C'est beaucoup de jeunes, un peu des fois des parents qui veulent s'y mettre. Mais écoute, on a des gens, donc ça, c'est bien. On avait peur en sortie de Covid aussi qu'on ait un manque criant là-dessus. Mais en tout cas, ça marche. Après, bénévole, ça, je pense que c'est pareil. Hein, même problème partout dans le sport amateur. On en manque forcément, on appuie toujours sur les mêmes. Chaque club, ça tourne autour de 3-4 personnes. Et forcément, ces gens-là, on les use. Et un jour ou l'autre, ça va se terminer. Donc, il y a des gros warnings sur notamment ces deux parties-là, hein, dirigeants et arbitres. Après, par rapport aux licenciés, on voit qu'on a retrouvé quand même relativement notre chiffre d'avant et que ça tourne bien. Donc, plus il y a de la masse, plus il va y avoir de matchs à courir, plus il y aura besoin d'entraîneurs, besoin de dirigeants pour tenir la table. Enfin, tout ça, si on veut aller vers augmenter le nombre de licenciés, il faut qu'on arrive à augmenter nos nombres de gérants du basket, si on peut appeler ça comme ça.
Oui, parce que c'est compliqué. Hein. Alors, les règles du basket sont très compliquées par rapport aux fautes. Il faut une table de marque, il y a le temps à gérer. Il y a les fautes à gérer, le nombre de fautes. C'est quand même... je pense que c'est un des sports collectifs les plus compliqués à arbitrer.
Ouais, c'est possible, ouais.
Oh, ben
en étant dedans, je me dirais que, tu vois, quand je vois un match de hand, il y a des trucs que je comprends pas, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus simple. Il y a peut-être moins de...
Ouais, c'est certain, mais c'est hyper compliqué, même quand on va au palio. Je suis perdu des fois, je comprends pas.
Et puis eux, ils ont des grandes tables, hein. Il y a beaucoup de gens, il y a des statisticiens, il y a beaucoup de choses.
Ouais. Hein. Donc il y a beaucoup de choses, c'est ça. En tant que conseiller du département, t'as aussi t'as eu une carrière de joueur.
Toujours. Alors plus maintenant, en tout cas j'essaie de la mettre entre parenthèses parce que j'ai les genoux qui grincent déjà.
Il me dit ça à moi.
Mais j'ai de l'arthrose quand même. Avant 30 ans, avoir de l'arthrose, c'est quand même pas terrible. Mais carrière de joueur. Bon, moi je viens du Nord de base, donc du coup j'ai fait mon cursus quand j'étais jeune dans le Nord, et puis je suis arrivé en Dordogne il y a presque 10 ans maintenant, mine de rien, parce que ça va vite.
Ouais.
Et donc, du coup, je suis toujours licencié au club de Saint-Front, du coup, où j'ai été joueur. Puis, quand mes genoux ont grincé fort, j'ai arrêté. Et donc, du coup, je suis passé à côté du banc. Et donc, du coup, je coach toujours actuellement la R2 du coup, de Saint-Front.
Ouais. Et d'ailleurs, après, il faut prendre la route pour aller à l'entraînement.
Ouais, exactement. Ouais. Là, 19h30, c'est parti. Et ouais, puis, entraînement à 20h, donc il va falloir que je roule pas trop vite. Hein,
mais, non, doucement.
Ça va, on est à Chamier, ça
devrait aller vite. Écoute, on arrive à la fin de l'émission. C'était très sympa de t'avoir, Rémi, avec nous. N'hésitez pas à contacter le comité basket d'Ordogne. Il y a un site, il y a la page Facebook. Mm-hmm. N'hésitez pas, parents, enfants, jeunes joueuses, je donnerai les coordonnées, il n'y a aucun souci.
Avec plaisir.
Parce que voilà, j'ai croisé quelqu'un qui voulait se mettre au basket et qui ne trouvait pas de club sur la Glotte Périgueux. Et du coup, j'ai dit, je t'orienterai. Il n'y a aucun problème.
Avec plaisir. Hein,
donc voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera football. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine, des bons matchs ce week-end. Restez calme en 2024, s'il vous plaît, sur et en dehors du terrain, hein, que ça change un petit peu. Merci en tous les cas, Rémi.
Merci à toi, Thomas.
Et bon entraînement.
Merci.
Au revoir.
Ciao.
RLP Sport, c'est fini, mais l'émission est toujours disponible en podcast sur le site de RLP. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. RLP Sport, en direct, tous les mardis à 19h avec Thomas Delpero. Thank you.